Bonjour, bonjour à tous. L'Espagne touchée par des feux de forêt, ils ont fait 3 morts et détruit des dizaines de milliers d'hectares de végétation. Ces incendies raniment les divisions politiques dans le pays. Nous ferons le point avec notre correspondant. S'oriente-t-on vers un deuxième échec des négociations autour du plastique? Les États n'ont plus que quelques heures pour proposer un texte de traité de réduction des déchets. Une première version a été rejetée hier, y compris par la France. Le Pérou vote une loi d'amnistie. La présidente veut blanchir les militaires impliqués dans la guérilla contre les maoïstes. Elle a fait 70 000 morts entre 1980 et 2000. Et puis dans ce journal, également les étudiants qui s'inquiètent déjà de la rentrée, d'autant que le gouvernement souhaite un gel des aides, mais le coût de la vie lui continue d'augmenter. C'est ce que montre un rapport du principal syndicat étudiant. La France va envoyer 2 avions Canadair en Espagne. Le pays a en effet lancé un appel à la solidarité ce matin face aux feux de forêt. Une 3e personne est morte ce matin, un pompier volontaire. Les pompiers espagnols qui doivent faire face à 11 gros incendies sur le territoire. Des dizaines de milliers d'hectares sont partis en fumée en quelques jours. C'est déjà le double de la superficie brûlée l'an dernier. Mathieu de Taillac, ces incendies suscitent des tensions sociales et politiques en Espagne.
100 000 hectares brûlés en 2025, dont les 2/3 ces 7 derniers jours, au terme d'une semaine terrible. Les grands incendies se sont multipliés, notamment dans le quart nord-ouest du pays, en Galice et dans les provinces de León et de Zamora. L'opposition de droite, qui dirige les régions les plus touchées, dénonce une désorganisation dans la réponse aux incendies. Alberto Núñez Feijóo, président du Parti Populaire.
Si on travaille en collaboration, si le ministère de l'Intérieur, si le ministère de l'Environnement, si le ministère de la Défense font leur travail, tout est plus facile. Mais quand toute la responsabilité, je dis bien toute, est déchargée sur les régions et les pompiers militaires, là, ça se complique. Le gouvernement aurait dû demander, il y a plusieurs jours, la collaboration et les ressources suffisantes à l'Union européenne.
Quelques heures plus tard, le gouvernement, hier soir, réclamait effectivement l'aide de l'Europe. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Intérieur, à la radio Cadena Ser.
Nous avons sollicité, il y a quelques minutes, 2 avions Canadair qui ont une capacité de plus de 5500 litres chacun. Ces avions seront mis à disposition des différentes régions qui nous communiquent leurs besoins de personnel ou leurs besoins de matériel. Nous répondons de manière immédiate à toutes les demandes que nous recevons.
C'est la France qui va fournir les 2 Canadair et 1 troisième avion de coordination. Sur place, un sentiment d'impuissance gagne les Espagnols. Les pompiers disent manquer de tout, de matériel, de personnel, d'heures de sommeil et même de nourriture suffisante.
Des explications de Mathieu de Taillac. En France, la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, est dans l'Aude, département sinistré par des incendies. 16 000 hectares touchés par le feu la semaine dernière. Elle doit annoncer des mesures d'urgence et des solutions plus durables pour l'agriculture. Une 40aine de maisons et 20aine de hangars agricoles ont été détruits, tout comme des 100aines d'hectares de vignes. Ces incendies sont favorisés par la chaleur. Or, c'est le 7e jour de canicule en France. Les 3/4 de l'Hexagone sont en vigilance orange aujourd'hui. Sont épargnés la Bretagne, la Normandie, une petite partie du centre Val-de-Loire, de la Nouvelle-Aquitaine et des Hauts-de-France. Plusieurs records absolus de température ont été battus. Hier, 41,7 degrés à Châteaumeillan dans le Cher. Alors, pour se rafraîchir, le réflexe, c'est souvent d'aller piquer une tête dans un lac ou dans une rivière. Marion Ferrer, bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Mais ces points d'eau, eux aussi, souffrent de la chaleur.
Car avec ces fortes chaleurs, l'eau des lacs s'est aussi réchauffée et au-dessus de 25 degrés, le climat devient propice à la prolifération des cyanobactéries. Jean-Philippe Delavaux est gérant du bureau d'études IDEO, hydrobiologiste spécialiste dans la détection des cyanobactéries.
D'abord, effectivement, printemps maussade, été caniculaire. Donc là, au niveau météo, on est servi. Très peu de concurrence interspécifique au printemps. Et puis, pour finir, lorsqu'il y a eu beaucoup de pluviométrie, ça a également concouru au ruissellement sur les bassins versants et donc à l'apport de nutriments qui ont pu également favoriser au bon moment l'apparition des cyanobactéries.
Et les agences régionales de santé les surveillent comme le lait sur le feu. Premier indice, le développement d'une pellicule verte à la surface de l'eau. Cette vigilance s'explique car certaines cyanobactéries sont toxinogènes. Elles provoquent des allergies cutanées, des nausées, des vomissements ou encore des diarrhées et les animaux sont encore plus vulnérables.
Les toxines ont 3 types d'actions. Il y a des neurotoxines, celles qui affectent le plus souvent les chiens d'ailleurs, qui meurent avec des troubles nerveux et des paralysies, les hépatotoxines et les dermatotoxines. Alors en ce qui concerne l'être humain, étant donné que le mode de contamination se fait par ingestion ou par inhalation d'aérosol, Bon, il est évident qu'on est moins exposé que des animaux de compagnie qui vont s'abreuver. Ceci dit, lorsque vous avez une efflorescence en bordure d'un plan d'eau et qu'elle se trouve à proximité d'une pataugeoire où des enfants en bas âge peuvent boire la tasse, le risque est énorme aussi.
Et si les effets du dérèglement climatique sont encore à analyser, plus aucune région de France n'est épargnée. Et ces cyanobactéries sont même présentes en altitude. Par exemple, en Savoie, la baignade dans le lac du Bourget a été interdite pendant 2 jours en début de semaine.
Merci Marion Ferrer. Et en plus de la chaleur, l'Hexagone a été touché par des violents orages. Hier, 12 000 foyers restent privés d'électricité ce midi dans le Tarn, le Tarn-et-Garonne, Lyon et le Cher. C'est la course contre la montre pour lutter contre la pollution plastique dans le monde. Les diplomates de près de 200 pays sont réunis à Genève depuis 9 jours. Ils n'ont plus que quelques heures pour se mettre d'accord sur un texte. Ce serait un premier traité international contre la pollution plastique après l'échec de l'an dernier en Corée du Sud. Hier, un premier projet a été soumis au vote, mais plus d'une centaine de pays l'ont rejeté, des pays d'Afrique, d'Amérique latine et de l'Union européenne. Impossible en effet de le prendre comme base de négociation pour la ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher.
Ce texte, en fait, ne répond pas à la commande qui est comment réduire la pollution plastique dans le monde, puisqu'il n'aborde pas les points essentiels, ne fait pas de lien entre les problèmes de santé humaine et la pollution plastique. Il n'aborde pas de manière très efficace la question de tous les produits chimiques qui sont mis en œuvre dans la production plastique et dont on sait de manière scientifique et établie que ça a un impact sur les écosystèmes et sur la santé humaine. Le texte n'adresse pas du tout la question de la production, alors que c'est essentiel. Donc je pourrais multiplier, il n'adresse pas la question des microplastiques, donc je pourrais multiplier les exemples. En l'état, il est clairement inacceptable et je crois que la majorité des pays qui sont exprimés aujourd'hui ont clairement partagé cette vision.
Agnès Pannier-Runacher au micro de Célia Kiray. Le Premier ministre britannique Keir Starmer a reçu Volodymyr Zelensky ce matin. Accueil avec une chaleureuse accolade devant le perron du 10 Downing Street à Londres. C'est donc une nouvelle démonstration du soutien européen à la veille d'un sommet important en Alaska. Avec cette rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine demain, elle débutera vers 21h30 heure de Paris et sera suivie d'une conférence de presse. Et puis sur le terrain, l'Ukraine tente aussi de mettre la pression. L'armée a tiré des dizaines de drones la nuit dernière. Ils ont atteint des cibles à près de 500 km à l'intérieur du territoire russe. L'ONU se dit ce matin consternée par une loi péruvienne. La présidente du Pérou, Dina Boluarte, l'a promulguée hier. Elle doit blanchir des militaires et des miliciens, ceux qui ont participé au conflit avec la guérilla maoïste. C'était entre 1980 et 2000. Ces affrontements entre l'État et les groupes du Sentier Lumineux et du mouvement Tupac Amaru ont fait 70 000 morts. Cette loi pourrait donc clore 600 procédures judiciaires en cours. Bonjour Éric Biagala.
Bonjour Caroline.
Mais est-ce que cette loi est vraiment applicable?
En tout cas, le ministre de la Justice péruvien, lui, y croit. Enrique Alcantara a défendu cette nouvelle loi d'amnistie en ces termes. Cette loi, a-t-il dit, cherche la justice et est basée sur les principes de notre Constitution. Tout le monde a le droit de voir sa situation légale résolue dans un laps de temps raisonnable. Alors cette loi, qui vient donc d'être promulguée par la présidente Dina Boluarte, avait été votée par le Congrès en juillet, à l'initiative des parlementaires du parti de droite Force Populaire, fondé par l'ancien président Alberto Fujimori. Ce parti estimant qu'une telle loi d'amnistie permettrait de clore des centaines de procédures judiciaires restées sans verdict depuis plus de 20 ans. La loi pourrait en effet affecter 156 affaires déjà jugées et plus de 600 procédures judiciaires en cours pour des crimes commis durant les 20 années de la guérilla maoïste du Sentier Lumineux et du groupe Tupac Amaru. Selon le journal officiel El Peruano, il y aurait plus de 1000 personnes poursuivies ou sous le coup d'enquêtes de justice pour leur participation à la lutte contre le terrorisme, essentiellement en fait des militaires et des paramilitaires accusés d'avoir conduit parfois de véritables massacres. Plus de 4000 fosses communes ont été répertoriées dans le pays. 70 000 personnes ont été tuées au cours des 20 ans d'affrontement et autour de 20 000 personnes sont toujours portées disparues. Cette loi d'amnistie est aussi, pour la présidente Dina Boluarte, qui vient de la gauche, une manière de se rapprocher des partis de droite et des militaires. Au moment où sa cote de popularité est au plus bas, moins de 4% de la population péruvienne lui fait confiance, selon des sondages récurrents. Les élections générales au Pérou, dont la présidentielle, sont prévues pour avril prochain.
Merci Éric Biagala. Au Brésil, les avocats de l'ex-président Jair Bolsonaro demandent son acquittement. Il est jugé en ce moment devant la Cour suprême. L'ancien chef d'État d'extrême droite est accusé de tentative de coup d'État après sa défaite en 2022. Ses avocats estiment qu'il est innocent et dénoncent une absence de preuves. L'enquête sanitaire se poursuit en France pour comprendre le lien éventuel entre les cas de listériose et un certain nombre de fromages produits par la fromagerie Chavegrand dans la Creuse. 21 personnes ont été contaminées, 2 sont mortes après une contamination donc à la listeria. On l'a appris mardi soir, les premières contaminations remontent à juin dernier. Tara Schlegel, on en sait plus sur le profil de ces malades.
Oui, un profil conforme aux connaissances des infectiologues. Sur les 21 malades, 28 ont plus de 65 ans, seuls 3 sont plus jeunes. Tous présentent des comorbidités ou sont sous traitement, ce qui fragilise leur organisme. La listeria monocytogène est une bactérie très présente, dite ubiquitaire, c'est-à-dire qu'on la trouve partout sur la planète, dans les sols, l'eau, les animaux, les végétaux. Et en général, nos défenses immunitaires nous protègent facilement. Cependant, chez les personnes fragiles, sous chimiothérapie par exemple, ou ayant bénéficié d'une transplantation, et aux âges extrêmes de la vie, il y a un véritable risque de voir la bactérie s'attaquer au système nerveux central et ou provoquer une septicémie, c'est-à-dire une infection généralisée. La plupart du temps, cela dit, on parvient à juguler l'emballement avec des antibiotiques. Les femmes enceintes, néanmoins, doivent être particulièrement prudentes. Et là, quel que soit le terme de leur grossesse, la listeria peut coloniser le placenta et infecter le fœtus. Ensuite, cela débouche sur des fausses couches ou des naissances prématurées avec des séquelles neurologiques. Parfois, chez la mère, la listeria peut incuber pendant 2 mois avant de donner la maladie. Le symptôme est une simple fièvre. D'ailleurs, les médecins rappellent toujours aux futures mamans de bien cuire leurs aliments, d'éviter la viande, le poisson cru, la charcuterie, etc. Car la listeria aime le froid. En revanche, elle meurt à des cuissons supérieures à 70 degrés.
Des explications de Tara Schlegel. À quelques semaines de la rentrée, l'UNEF, le syndicat étudiant, se mobilise. Il se dit inquiet ce matin de l'année blanche décrétée par François Bayrou pour 2026. Le Premier ministre compte en effet geler des prestations sociales pour faire des économies. Mais la vie étudiante va continuer de coûter de plus en plus cher pour cette rentrée. Savannah Ruelland, bonjour.
Bonjour.
C'est en tout cas ce que montre une étude de l'UNEF qu'elle publie ce matin.
Oui, d'après l'UNEF, le coût de la vie étudiante a progressé de 4,12% en 2025. C'est 2 fois plus que la hausse constatée par l'UNEF l'an dernier à la même période. Et cela représente 807 euros en plus que les étudiants devront dépenser au cours de l'année. Une hausse qui s'explique par divers facteurs, selon Salomé Ocar, vice-présidente de l'UNEF.
Il y a la question des loyers dans le parc privé qui augmente énormément. Et étant donné qu'on a plus de 60% des étudiants qui n'habitent plus chez leurs parents, il y a aussi la question de l'augmentation des transports. De moins en moins de villes mettent en place des tarifs spéciaux pour les boursiers. Et puis une augmentation de l'électricité aussi qui impacte très fortement aussi les étudiants, notamment beaucoup de logements qui sont des passoires thermiques, etc. Mais également les frais d'inscription à l'université qui augmentent encore une fois cette année.
S'ajoute à cela la crainte d'un gel des APL, les aides au logement, dans le nouveau budget qui sera présenté à l'automne. Mais cette précarité n'est pas nouvelle. On se rappelle des files d'attente d'étudiants devant les Restos du Cœur à la période du Covid. Or, d'après l'UNEF, ce sont toujours 20% des étudiants qui recourent à une aide alimentaire.
On le voit moins, on en parle moins, mais les files, elles existent toujours. Les distributions alimentaires existent toujours. Les chiffres sont de plus en plus graves. Et c'est pour ça aussi que nous, on sort notre enquête chaque année pour rappeler qu'en fait, il y a une situation aujourd'hui dans notre pays qui est assez dramatique concernant les étudiants. On essaye toujours de mettre la lumière sur cette situation.
Le syndicat étudiant réclame notamment la construction des 60 000 logements CROUS promis en 2017 par Emmanuel Macron. Seulement 10% d'entre eux sont sortis de terre.
Merci Savannah Ruelland. Et l'inflation est effectivement toujours d'actualité en France. Pour les étudiants et pour la population en général, les chiffres de l'INSEE sont tombés ce matin. Les prix ont augmenté de 0,2% entre juin et juillet, principalement à cause du transport et de l'hébergement. Deux complices de Mohamed Amra mis en examen à Paris. Il s'agit de deux hommes de 28 et 38 ans. Ils sont soupçonnés d'avoir aidé le narcotrafiquant à s'évader. C'était en 2024 en Normandie. Deux agents pénitentiaires avaient été abattus. Les deux hommes ont été interpellés en février dernier au Maroc, mais ils viennent d'être extradés. Et puis, un nouveau record pour le Bitcoin ce matin. La crypto-monnaie a atteint un nouveau plus haut. Elle a dépassé pour la première fois le seuil des 124 000 dollars. Plusieurs facteurs expliquent ce record. La hausse des actions américaines, mais aussi l'intérêt des investisseurs institutionnels et une législation américaine favorable. Et puis, on finit avec la météo. On vous le disait, c'est la canicule. La vigilance orange perdure dans 75 départements aujourd'hui. Seul le nord-ouest, surtout la Bretagne et la Normandie, sont épargnés pour l'instant par la vague de chaleur. Les maximales vont de 33 à 36 degrés, avec une pointe à 40 degrés dans le Languedoc et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Des orages sont attendus cet après-midi en montagne, dans le Jura, les Alpes et l'Est du Massif central, ainsi que dans les Pyrénées et en Corse. Ils seront particulièrement violents dans les Alpes du Sud. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé avec l'aide de Julien Loquet et à la technique Anthony Raphaël Rousseau.